Vous écoutez On lit pour vous.
L'homme qui racontait la planète, un texte d'Éric Pierre Champagne paru le 4 mai 2026 dans la presse. David Attenborough fêtera ses 100 ans le 8 mai 2026. Depuis plus de 70 ans, il a parcouru le monde partageant avec le public sa passion pour les merveilles de la nature. Le plus célèbre naturaliste et communicateur de son époque a aussi vu la planète subir de profonds changements. Portrait d'un homme modeste qui refuse de prendre sa retraite. La nature est le plus grand de tous les trésors, et pourtant, au cours de ma vie, nous l'avons davantage dégradée que durant toute l'histoire de l'humanité, résume David Attenborough, au début du troisième épisode d'un documentaire consacré à sa formidable carrière, Attenborough, 60 Years in the Wild, Attenborough, 60 ans dans la nature, diffusé en 2012. Sir David Attenborough, il a été fait chevalier par la reine Élisabeth II en 1985, n'est pas un témoin ordinaire des impacts des activités humaines sur la planète. Depuis 1954, il a voyagé partout ou presque dans le cadre de ses nombreuses séries documentaires qui lui ont rapporté plusieurs prix. Preuve de sa longévité, il a remporté au moins un prix BAFTA, les Oscars britanniques, pour un film produit en noir et blanc, en couleur, en haute définition, en 3D et en résolution 4K. Ses rencontres avec les créatures les plus incroyables sur Terre ont ému le public sur plusieurs décennies. Celle avec les gorilles des montagnes, une baleine bleue, le ménure, un oiseau aux performances vocales inouïes, ou encore cette scène émouvante avec un bébé rhinocéros aveugle. À bientôt 100 ans, David Attenborough ne parcourt plus le monde aussi souvent, mais il refuse de prendre sa retraite. Dans une entrevue accordée en 2016 au journaliste James Rampton du quotidien britannique The Independent, il précise qu'il ne se lasse jamais du monde naturel, ajoutant que l'idée de prendre sa retraite lui apparaît comme un projet ennuyeux. Une chance incroyable. David Attenborough voit le jour le 8 mai 1926 en banlieue de Londres. Il a deux frères, dont l'aîné, Richard, deviendra un acteur et un réalisateur qui remportera plusieurs prix cinématographiques. Signe de sa curiosité pour le monde naturel, il passe son enfance à récolter des fossiles et à collectionner des salamandres. Âgé de 11 ans, il devient même le fournisseur du département de zoologie du University College à Leicester, où son père était recteur. Sans surprise, il étudie la géologie et la zoologie et obtient son diplôme universitaire en sciences naturelles à l'Université de Cambridge en 1947. Après son service militaire, il travaille pour une maison d'édition où il révise des textes de vulgarisation scientifique pour les enfants. En 1952, il fait son entrée officielle à la BBC où il devient producteur. En 1954, il lance Zoo Quest, une série documentaire relatant les efforts du zoo de Londres pour capturer des spécimens d'animaux partout dans le monde. Ironiquement, il n'était pas l'animateur pressenti au départ, la BBC jugeant qu'il avait une dentition trop proéminente pour bien paraître à l'écran. Il remplace à la dernière minute le directeur du zoo, malade choisi pour animer cette nouvelle émission. David Attenborough, en entrevue en 2016, a dit ceci. « J'ai vraiment eu une chance incroyable. Je veux dire, avoir passé ma vie à faire quelque chose que j'aurais fait gratuitement et être payé pour ça, c'est un immense privilège. » Le succès de Zoo Quest lance sa carrière. Il deviendra un formidable vulgarisateur scientifique qui initie le public au mystère de la nature. Dès 1973, il imagine une grande série portant sur l'histoire de la vie sur Terre. Life on Earth, diffusée en 1979, connaît un immense succès. La série de 13 épisodes a nécessité 3 ans de préparation. Sa popularité repose autant sur sa rigueur scientifique que sur la qualité exceptionnelle de ses images. tous reconnaissent également le grand talent d'Attenborough à raconter une histoire, celle de notre planète. Une icône. En plus de 70 ans, il a participé à plus de 100 films documentaires, dont 9 séries emblématiques sur l'histoire de la vie et des différentes espèces sur Terre. S'il est devenu une icône au fil des ans, David Attenborough a toujours refusé ce titre. La création d'un programme de télévision est avant tout un travail d'équipe, et je me sens constamment gêné par la reconnaissance dont je bénéficie pour un travail qui, en réalité, est accompli par de très nombreuses personnes, affirme-t-il en 2016 lors d'une entrevue soulignant son 90e anniversaire. Grâce à son immense curiosité, sa grande gentillesse et un brin de modestie, l'homme a séduit partout où il est passé. On dit qu'il ne faut jamais rencontrer ses héros, mais je suis ravi d'avoir rencontré celui-ci. En personne, Attenborough est exactement comme on l'imagine. Charismatique, captivant et charmant, écrivait d'ailleurs le journaliste James Rampton en 2016. Depuis sa naissance, en 1926, la concentration de CO2 dans l'atmosphère a bondi de plus de 41%. Plusieurs espèces ont disparu à jamais, et d'autres sont au bord de l'extinction. La grande majorité des écosystèmes terrestres et marins subissent les assauts de l'activité humaine. Le réchauffement planétaire, tout comme le déclin de la biodiversité, font dorénavant l'objet de grandes rencontres internationales. David Attenborough garde espoir, mais son message est sans équivoque. Nous comprenons aujourd'hui mieux que jamais le monde naturel. Nous savons comment le protéger au mieux pour les générations futures. Je ne peux qu'espérer que nous le ferons. 6 rencontres marquantes. Les gorilles du Rwanda. En 1978, David Attenborough se rend au Rwanda dans l'espoir de filmer les gorilles des montagnes. Le résultat surprendra toute l'équipe qui accompagne le communicateur. Un jeune gorille se couche sur Attenborough pendant qu'un autre lui tourne la tête avec ses mains pour l'observer, droit dans les yeux. Une scène émouvante qu'il décrira plus tard comme l'un des moments les plus extraordinaires de son existence. L'oiseau qui imite tout. Ou presque. Dans la série « The Life of Birds », « La vie des oiseaux », diffusée en 1998, David Attenborough présente le ménure, un oiseau lyre réputé pour ses impressionnantes capacités d'imitation. On l'entend imiter le son d'un appareil photo, d'une alarme de voiture et même celui d'une tronçonneuse. À noter que ses chants sont ceux d'oiseaux vivants aux eaux d'Adélaïde, en Australie, exposé à différents sons d'origine humaine. Le bébé rhinocéros. En 2013, David Attenborough fait la rencontre de Nicky, un bébé rhinocéros né aveugle. L'homme de 86 ans n'hésite pas à s'agenouiller au sol pour établir un contact avec l'animal qui n'a que l'ouïe et l'odorat pour percevoir son entourage. Des vétérinaires ont jugé plus tard qu'il était trop risqué d'opérer Nicky dans l'espoir de lui rendre la vue. L'oiseau de paradis bavard. En 1996, David Attenborough est interrompu à plusieurs reprises par un oiseau de paradis pendant le tournage de son documentaire « Attenborough in Paradise »« Attenborough au paradis » diffusé en 1996. Pour moi, les oiseaux de paradis sont les oiseaux les plus romantiques et les plus glamour au monde. Et c'est un film que je rêve de réaliser depuis 40 ans, dira-t-il. La baleine bleue. Une baleine bleue mesure en moyenne entre 25 et 27 mètres de long et pèse plus de 100 tonnes. Mais malgré sa taille impressionnante, il n'est pas si facile d'en apercevoir une. David Attenborough a 58 ans quand il décrit le passage du mammifère sous son embarcation lors du tournage de la série « The Living Planet » diffusée en 1984. La tortue solitaire « Lonesome George ». Dans une scène tournée en 2012 aux îles Galapagos, on aperçoit David Attenborough, 86 ans, couché au sol, tout près d'une tortue surnommée Lonesome George, la dernière de son espèce, Chilonoidis abingdonii, encore en vie. C'est la créature la plus rare au monde, dit-il. Ironie du sort, Lonesome George mourra de causes naturelles quelques semaines plus tard. On estimait qu'elle avait environ 101 ans. C'était L'homme qui racontait la planète, un texte d'Éric Pierre Champagne paru le 4 mai 2026 dans la presse.
On a le meilleur, un texte de Marie-Ève Maurras paru le 11 mai 2026 dans la presse. Accueillons nos Canadiens. C'est la voix des Glorieux depuis 30 ans. Michel Lacroix est celui qui présente les joueurs, annonce les buts et les punitions. Dimanche soir, il a accueilli la presse à ses côtés en ces temps de hockey où il n'y a pas de face d'enterrement au Centre Bell. À partir de 18h30 jusqu'à la conclusion du match, il n'y a pas un moment de répit. Le Centre Bell est encore vide de ses partisans, mais Michel Lacroix peut dire à la minute près ce qu'il va se passer ce soir-là. S'il ne contrôle pas l'action sur la glace, l'annonceur officiel du Canadien sait où son match s'en va. Derrière son bureau, avec une vue imprenable sur la glace, aux côtés de son coloc, le DJ du Canadien Vincent Guy Aubry, il explique qu'un soir de match, on n'accepte pas le silence dans l'amphithéâtre. À ses côtés, une horloge affiche un décompte des minutes qu'il reste avant que la partie commence. Un écran montre le couloir qui mène au vestiaire des joueurs. Michel Lacroix sait exactement quand son tour de piste viendra. Dans la foule, quand on arrive à 2 minutes et demie avant le début du match, là, ça commence à taper du pied. Puis, le coup de hockey sur les fesses d'un joueur au gardien avant de sauter sur la glace et tout part, relate M. Lacroix. Là, c'est « Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, accueillons nos Canadiens », dit l'annonceur, qui note que le son de la foule monte alors à 115 ou 120 décibels. Une légende. Cette célèbre phrase qui lance le match a été entendue par d'innombrables partisans et joueurs au fil des années. Il suffit de passer quelques heures avec Michel Lacroix pour comprendre que son rôle est lié à de grands moments d'émotion pour de nombreux fans. Dans le Centre Bell, tout le monde semble le connaître et il semble connaître tout le monde. Dans un ascenseur, il rigole avec les membres de la famille de Zachary Bolduc. Tandis qu'il se rend à son poste avant le match, les partisans sont nombreux à l'arrêter pour lui demander des nouvelles, comme s'il le connaissait depuis toujours. Dans l'amphithéâtre, l'orthopédagogue Kinda Mansour lui demande si elle peut se faire prendre en photo avec lui. L'homme accepte, la femme est tout sourire. « J'ai beaucoup d'élèves qui adorent M. Lacroix », dit Mme Mansour. « Ils entendent sa voix à la télévision, il fait partie de l'équipe. Je suis venue prendre la photo pour mes élèves. » Avant chaque match, Michel Lacroix passe faire un tour au salon où se retrouvent les anciens joueurs du Canadien. Dimanche soir, Kirk Muller, David Savard, Guy Carbonneau et Steve Bégin y étaient, mais aussi Patrice Brisebois. Dès qu'il aperçoit Michel Lacroix, ce dernier lui serre chaleureusement la main et lui demande s'il est prêt pour le match. « C'est une légende, c'est la voix du Canadien », dit de lui l'ancien défenseur. C'est la façon dont il le fait avec professionnalisme. Son ton de voix, il va étirer certains noms. On a le meilleur. Qu'est-ce que ça fait pour un joueur de Montréal d'entendre la voix de l'annonceur? C'est le fun pour un but ou un assist, certainement pas pour une pénalité, dit en riant Patrice Brisebois. Je ne parle pas de hockey. Bien avant le match, Michel Lacroix a révisé le nom des joueurs de l'équipe adverse pour s'assurer qu'il ne fait pas d'erreur de prononciation. Quelques minutes avant le match, l'annonceur coche sur sa feuille de notes les joueurs qui feront partie de l'alignement de départ. Est-il d'accord avec le choix du coach Saint-Louis? Je te l'ai dit, je ne parle pas de hockey. Vrai qu'il nous l'avait dit plus tôt. Je ne me mêle pas de leurs affaires, assure l'annonceur, qui dira toutefois qu'il espère voir le Canadien remporter une 25e Coupe Stanley. Une fois passée la mise au jeu initiale, M. Lacroix peut respirer un petit peu, tout en gardant les yeux sur la glace. Comme dimanche contre les Sabres de Buffalo, un but est parfois vite arrivé. Michel Lacroix ne peut annoncer un point avant qu'il ne soit officialisé par la LNH, même si c'est évident à force de regarder des matchs en 50 ans. À chaque but, l'annonce de l'homme fait crier de joie la foule ou la fait huer. Sous son casque d'écoute, de plus petits écouteurs lui permettent d'entendre les bruits d'ambiance. C'est comme ça que l'annonceur sait qu'il doit parler plus fort que la clameur des 21 000 personnes présentes. Faut avoir écouté du Pink Floyd puis du Led Zeppelin toute sa vie avant de faire ça, dit en rigolant Michel Lacroix. En chœur. Dimanche soir, comme dans une grande chorale, la foule scandait avec lui le nom des joueurs qui marquaient. Nook, Kirby Dash, Bolduc, et ainsi de suite, six fois plutôt qu'une. Quand il annonce un but de l'équipe adverse, c'est plus sobre, dit l'homme. Si bien que du temps pré-pandémique, où Michel Lacroix était assis bien plus près de la glace, Alex Kovalev lui a fait remarquer qu'il disait son nom avec un peu plus de force dans la voix lorsqu'il jouait avec le Canadien qu'avec les Sénateurs d'Ottawa. Je lui ai dit « wrong team », mentionne en riant M. Lacroix. L'annonceur dit qu'il se laisse rarement emporter, tâche de rester poli et respectueux. « J'essaie de ne pas être émotif », explique-t-il. Ce serait fausser la présentation. Il relate néanmoins des matchs marquants. Dans ma première vie avec le club, quand c'était Lafleur, Schott, Lemaire, Dryden, c'était le paradis, dit Michel Lacroix. Puis, il y a les moments uniques, comme ce soir d'avril 2002, où Saku Koivu est revenu au jeu après avoir subi des traitements contre le cancer. Ça a été un moment extraordinaire, se souvient Michel Lacroix. Ça dépasse les frontières du sport. C'est plus grand que nature. Dimanche, comme chaque soir, c'est l'émotion de la foule que Michel Lacroix cherchait à transmettre. À la fin du match, quand on est vainqueur, ça prend au moins 2-3 minutes avant que la foule se calme. Et quand c'est les entrevues des joueurs sur la patinoire, les trois quarts des gens n'entendent pas, nous avait-il averti. Quand le Canadien a scellé sa victoire de 6-2 contre les Sabres, le niveau de décibels semblait battre des records. « J'ai rarement vu ça », a dit le DJ Vincent Guillaubry à l'issue du match. C'était le scénario idéal, a ajouté son coloc Lacroix. Ça aussi, il nous l'avait dit, les envolées oratoires, très peu pour lui. C'était « On a le meilleur », un texte de Marie-Ève Maurras, paru le 11 mai 2026 dans la presse.
Le Québec est-il prêt pour l'Apocalypse de 2038? Un texte d'Alain McKenna, paru le 22 avril 2026 dans la presse. Les informaticiens l'ont déjà surnommé Apocalypse. La quoi? L'année 2038. En raison du vieillissement de certains systèmes informatiques qui reposent sur un calcul du temps limité, le risque est réel qu'on revive le bug de l'an 2000 38 ans plus tard. Ce qui en dit long sur la façon dont l'entretien de technologies cruciales au bon fonctionnement d'à peu près toute la société est parfois négligé. C'est le même bug que celui de l'an 2000, explique le professeur de génie logiciel de l'Université de Montréal, Benoît Baudry. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, sauf là où de vieux systèmes sont encore en place, comme dans les hôpitaux, certains établissements du secteur de l'énergie, partout où les ordinateurs ne sont pas changés très souvent. À très exactement 3h14:18, en temps universel UTC, le 19 janvier 2038 au matin, pourrait avoir lieu ce bug de l'an 2038. À ce moment, les horloges qui calculent l'heure selon le temps écoulé en secondes depuis le 1er janvier 1970 à minuit reculeront d'un coup à 20h45:52 le 13 décembre 1901. Pour épater la galerie dans un cocktail dînatoire, il est possible de résumer l'affaire en disant que le problème est lié au calcul binaire du temps dans un système à 32 bits. Les systèmes informatiques concernés sont, en gros, ceux qui reposent eux aussi sur certains systèmes 32 bits. Le professeur Baudry est sûr que le risque est minime car, comme en l'an 2000, le problème est identifié tôt. Les informaticiens auront le temps de trouver des solutions, comme faire migrer les vieux logiciels vers un modèle à 64 bits qui repousse l'échéance au 4 décembre de l'an 292 277 026 596. Avec 21 fois l'âge de l'univers devant soi, on aura le temps de voir venir, concluent les experts. Des systèmes à très haut risque. Et pourtant, on va probablement entendre parler du bug de l'an 2038 à nouveau au fil des 12 prochaines années, car il souligne la faiblesse de systèmes informatiques qui sont aujourd'hui au cœur du bon fonctionnement d'infrastructures critiques partout dans le monde, y compris au Québec, rappelle Benoît Baudry. On parlait déjà de ce bug au début des années 2000. Le fait qu'on en parle encore, c'est qu'il y a encore de vieux systèmes en opération. Et c'est bien ça le problème. C'est sûr que Google et OpenAI ne vivront pas ce bug. Ils ont les moyens de s'ajuster, mais les organisations publiques. Le professeur montréalais cite les établissements de santé dont les systèmes informatiques sont désuets. On exige qu'ils numérisent le dossier de leurs patients, qu'ils adoptent l'intelligence artificielle, et pendant ce temps, un bug vieux de 68 ans menacent certains de leurs services. Car ce bug pourrait toucher de nombreuses bases de données comme MySQL, sur laquelle repose la majorité des sites web actuellement en ligne. Le langage de programmation COBOL est aussi en 32 bits. C'est un vieux langage, mais encore très répandu dans les systèmes gouvernementaux au Québec et ailleurs. Le manque d'expertise en langage COBOL est ce qui a provoqué des ratés du système de paix provincial en 2023. Sur les sites d'emploi, des dizaines de postes au sein du gouvernement sont toujours affichés et demandent une expertise en COBOL. Ça touche le public et c'est très embêtant si ce n'est pas corrigé, dit Benoît Baudry. Ça souligne l'importance d'avoir à l'interne une bonne expertise en informatique. Beaucoup d'organisations se sont massivement numérisées depuis 5 ou 10 ans, sans avoir la connaissance technique interne pour prendre les bonnes décisions. En 2021, le Time Magazine a revisité le bug de l'an 2000. Il a établi son coût pour les entreprises à 400 milliards US, au bas mot. Celles qui ont agi plus tard ont payé plus cher. Les 12 années qui nous séparent de 2038 peuvent sembler suffisantes pour corriger le problème, mais il est peut-être sage de s'y attaquer dès que possible, conclut Benoît Baudry. C'est probablement ce qu'il faut faire, car si on n'investit pas maintenant, ça va coûter plus cher plus tard. C'était Le Québec est-il prêt pour l'apocalypse de 2038? Un texte d'Alain McKenna, paru le 22 avril 2026 dans la presse.
La pénurie de psychologues s'accentue dans le réseau public. Un texte d'Isabelle Porter, paru le 12 mai 2026, dans Le Devoir. Mise en évidence durant la pandémie, la pénurie de psychologues s'accentue dans le réseau public qui en compte 127 de moins qu'il y a 2 ans. On recensait 2023 psychologues dans le réseau public au 4 avril dernier, selon des données fournies par Santé Québec. Or, le gouvernement évaluait il y a 2 ans qu'il en faudrait 2461 cette année pour répondre aux besoins, soit un manque à gagner de 438 personnes. En 2024, le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, s'était dit convaincu de juguler la pénurie en 2 ans. La première année où on va avoir pourvu nos postes, c'est 2026, avait-il déclaré. Pour y arriver, le ministre tablait sur un nouveau programme de bourse pour les internats en psychologie. Or, les données montrent plutôt que leur nombre a continué à diminuer depuis, avec 127 psychologues de moins en 2026 dans le réseau par rapport à 2024. Lionel Carman a été interpellé à ce sujet par l'opposition péquiste lors de l'étude des crédits mardi en fin de journée. M. Carman est depuis peu de retour au poste de ministre responsable des services sociaux après avoir remis sa démission en octobre dernier en raison du malaise qu'il éprouvait avec l'imposition d'une loi spéciale sur la rémunération des médecins spécialistes. Selon Santé Québec, les professions où les pénuries de ressources sont les plus marquées dans le réseau sont les infirmières, les inhalothérapeutes, les préposés aux bénéficiaires, les technologistes médicaux et techniciens de laboratoire, les perfusionnistes et les psychologues. C'était « La pénurie de psychologues s'accentue dans le réseau public », un texte d'Isabelle Porter, paru le 12 mai 2026 dans Le Devoir.